Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Notre question aujourd'hui, en ce lundi 15 décembre, sommes-nous de bons amis pour les animaux? Bonne question, hein? Est-ce qu'on s'en occupe bien? Parce qu'eux, ils nous donnent vraiment énormément, hein? On peut parler d'amour inconditionnel. Est-ce que la société aussi les traite bien? Il y a une loi, mais enfin, ce n'est pas encore une loi, mais on veut les considérer comme à adopter une loi en France. C'était auparavant inscrit qu'ils étaient des meubles. Et nous, il y a un groupe de pression qui fait signer une pétition parce que, entre vous et moi, mesdames, messieurs, les animaux, est-ce qu'ils sont des meubles? Hein? Quand vous les voyez comme ça, tout mignons, tout gentils, avec une âme qui guérissent aussi, qui peuvent détecter des cancers. Alors, notre question du jour, sommes-nous de bons amis pour les animaux? Et je serai en bonne compagnie aujourd'hui avec des spécialistes pour faire le tour en 60 minutes pour vous, les amoureuses et les amoureux des animaux. On parlera avec Anita Kapuscinska, elle est coordonnatrice aux relations de presse pour la SPCA. Il y aura également Marie-Josée Gauthier, elle est cofondatrice de la fondation Corazon du Québec, Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Il est même allé en Cour suprême, alors vraiment, c'est un spécialiste qui va nous parler des bélugas et ça nous a tous touchés, ça nous touche encore. Alors on va parler avec lui de tout ça, où ça en est. Annie Bernacci, elle est spécialiste clinique et formatrice pour la zoothérapie. Ça marche très bien. Comment ça fonctionne? Qui peut faire ça? Les résultats, et c'est vraiment, vraiment une experte dans ce domaine. Et notre coup de chapeau, eh bien, ce sera Patricia Tulane, porte-parole de la Société québécoise pour la protection des animaux. Tout ça aux questions de Sophie. Et puis, évidemment, pendant l'émission, je vais vous lire. Vous avez été nombreux à nous écrire. Ça nous fait toujours un plaisir. Alors, sur Twitter, Canal M, s'il vous plaît, mettez Canal M. Il y en a qui m'écrivent à mon nom, c'est bien, mais c'est plus facile. On a Claudia Benoît qui est en studio et qui, pendant l'émission, pendant que je vous parle, eh bien, elle me transmet les messages. Donc, c'est plus facile pour nous de vous lire. Alors, SPCA, Anita Kapuscinska, les coordonnatrices aux relations de presse, elle est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui. Vous.
Oui. Alors, comment, d'après vous, on traite nos animaux au Québec?
Malheureusement, on a encore beaucoup de chemin à faire à Québec. Les animaux sont pas assez bien protégés. Mm-hmm. Il y a encore beaucoup de cas de négligence et de cruauté qu'on voit. Et malheureusement, les lois ne sont pas assez sévères pour donner la bonne protection à ces animaux-là.
Oui. Alors, est-ce qu'on en est au niveau de la loi? On sait très bien qu'en France, c'est contre même les droits de la personne d'interdire les animaux chez dans les appartements.
Oui.
Où s'en est rendu ici au Québec et au Canada?
Effectivement, c'est un gros problème, la période de déménagement au Québec. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que tout le monde déménage en même temps, le 1er juillet, et les propriétaires ont le droit de refuser des animaux, puis ils prennent en avantage. Malheureusement, ça cause énormément d'abandon. Même à ça, nous, on reçoit presque triple le nombre d'animaux pendant l'été que pendant les autres périodes de l'année. Donc, c'est un gros problème, puis on continue à mettre des pressions avec le gouvernement pour changer ces règlements-là. On n'est pas encore arrivé, mais c'est sûr qu'on va continuer d'y travailler jusqu'à temps que ça va changer.
Oui, parce qu'à quelle porte vous cognez à ce moment-là pour dire, ben voilà, il faut faire comme les Européens, mais je pense aussi qu'en Ontario, ça change à ce niveau-là aussi.
Oui, en Ontario, ça a changé il y a quelques années. Mm-hmm. Ça a changé, comme vous avez dit, en France et récemment en Belgique.
Oui.
C'est quelque chose qu'on veut que ça change ici. On fait des pétitions, on met des pressions, mais c'est pas encore fini, malheureusement.
Parce que les bienfaits d'être avec un animal sont prouvés, autant au niveau de la zoothérapie que, par exemple, chez les personnes âgées ou les enfants, il y a de l'amour là-dedans, il y a de la compassion. L'animal donne énormément.
Effectivement, c'est vraiment une membre de la famille, donc c'est vraiment triste. C'est quand les gens se retrouvent dans des situations où ils doivent se débarrasser de leur animal. C'est souvent pas voulu, mais ça affecte beaucoup de monde, puis ça affecte beaucoup d'animaux, puis c'est pas quelque chose. Les propriétaires des logements sont déjà protégés contre des problèmes qu'un animal pourrait possiblement causer. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle cet règlement est là, puis on aimerait vraiment que cet règlement soit nul et sans effet.
Alors, on va parler de la maltraitance parce que malheureusement, ça existe envers les animaux. Est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques pour nous?
Absolument. Je peux vous parler des statistiques de la SPCA de Montréal. Je ne pourrais pas vous parler des statistiques à travers le Québec, mais ça donne quand même une bonne idée. Nous, on a un service d'inspection à la SPCA de Montréal. Puis, juste comme exemple, en 2013, on a traité plus de 1100 nouvelles plaintes. Qu'est-ce qui a touché des inspections auprès de 2800 animaux de toutes espèces confondues. Donc, on ne parle pas juste des chiens et des chats. Jusqu'au point qu'un total de 195 animaux ont été saisis à la suite de leurs enquêtes et plusieurs accusations ou poursuites criminelles ont été portées.
Bon, on sait très bien que le Manitoba est vraiment une bonne figure au niveau de la maltraitance parce qu'ils ont des lois. Qu'en est-il pour nous?
Oui, donc malheureusement, le Québec est considéré le pire province pour les animaux.
Ah bon?
C'est vraiment triste. Puis c'est pas la première année non plus. Manitoba est considéré le meilleur province. Un exemple, c'est qu'ils considèrent aussi l'état psychologique de l'animal. Donc, à Québec, nous, on regarde juste si les besoins physiques de l'animal sont bien comblés, mais à Manitoba, ils considèrent aussi les besoins psychologiques. Est-ce que l'animal reçoit assez d'exercice? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est stressé? Tandis qu'à Québec, on regarde même pas ça. Mais c'est sûr que nous, on a quand même, on espère que ça va changer bientôt. On est très optimiste avec la nomination de Pierre Paradis comme nouveau ministre de l'Agriculture, parce qu'il semble vouloir quand même changer des choses. Mais il y a quand même plusieurs choses que nous, on aimerait changer, des importants amendements qui doivent être portés à la législation québécoise en matière de bien-être des animaux. Puis ceci inclut d'assurer la protection de toutes les espèces animales. Donc, pas tous les animaux sont protégés de la même façon. Par exemple, les animaux exotiques et les animaux de la faune en captivité n'ont pas la même protection que les chiens et les chats, par exemple. On aimerait aussi voir adopter des normes de soins de tous les animaux. Il y a des normes, des codes canadiens de pratique recommandés pour les soins et la manipulation des animaux d'élevage. Puis c'est vraiment à chaque province de les adopter s'ils le veulent. Donc, ils sont là, ils sont disponibles. On les a pas encore adoptés à Québec, puis on aimerait ça quand même qu'ils soient adoptés. Ça donne une protection minimale pour les animaux. Donc, c'est quand même un bon début. Puis, inclure l'incarcération comme une peine possible dans un cas de non-conformité.
Là, pour l'instant, il n'y a rien à ce niveau-là, au niveau de la loi. Si quelqu'un... Parce qu'il y a énormément d'usines à chiots, on en parle, on voit ça dans les bulletins de nouvelles. Chaque année, c'est comme par hasard aussi, ça arrive toujours au temps des fêtes où là, il y a quelqu'un qui a découvert qu'il y avait une usine à chiots et ils sont maltraités et c'est épouvantable. Donc, la personne qui est responsable de ça va pas derrière les barreaux. Comment ça se passe?
Malheureusement, la protection est pas assez haute. C'est sûr que quand quelqu'un voit une usine à chiots ou un autre type de ferme d'élevage, c'est très important de signaler ceci à la SPCA de Montréal ou même le MAPAC. Ils ont aussi des inspecteurs puis ils peuvent faire des investigations. Puis c'est tout des cas par cas. Donc il faut envoyer des inspecteurs pour voir qu'est-ce qui se passe dans la situation. Je peux dire que depuis 2008, les peines maximales Avant 2008, pardon, les peines maximales étaient de 600 $. Maintenant, c'est considéré comme le minimum. Donc, il y a quand même des améliorations qui ont été faites, mais elles ne sont pas assez strictes. Comme les usines à chiots, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire pour changer l'état des animaux dans une usine ou même les enlever de cette situation-là. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit avec les usines de ferme, les animaux de ferme, qu'est-ce qu'on voit avec les animaux qui sont utilisés pour la fourrure? Ces animaux-là n'ont pas presque aucune protection du tout. Donc, c'est vraiment, vraiment triste qu'on voit que les renards, dans cette situation, ils ont aucune protection, mais les chiens dans une usine à chiots, ils ont un peu plus de protection. Mais c'est pas des animaux qui sont très différents non plus. Donc, ça serait très important d'assurer la protection de toutes les espèces animales.
Et pour avoir déjà eu dans ma famille, on avait un renard comme animal de compagnie. C'est extraordinaire.
C'est des très beaux animaux.
Oui. Alors, écoutez, j'aimerais qu'on le dise, parce que là, ça arrive... C'est les fêtes. Bon. SPCA, vous êtes là à l'année, mais le lendemain, le 26, le 27, j'ai entendu des histoires d'horreur. Les gens viennent avec les animaux qu'ils ont offerts à soit leurs enfants comme cadeau. Et le lendemain, sur le palier de la porte, on retrouve cet animal-là dans une boîte. Le message doit être passé.
Absolument.
J'aimerais que vous nous disiez la réalité. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'on va avoir ce scénario-là? Combien? Est-ce que c'est des chats, des chiens? Comment ça fonctionne? C'est une période terrible pour vous à Noël, parce que autant c'est magnifique d'avoir cette idée d'offrir un animal, mais autant c'est le cauchemar quand il se retrouve même pas 24 heures chez vous.
Oui, c'est sûr que c'est une situation. Adopter un animal, il faut impliquer tous les membres de la famille. Donc, c'est pas... adopter un animal pour quelqu'un, c'est pas une belle surprise nécessairement, parce que un animal, ça peut vivre une bonne quinzaine d'années, puis il faut être prêt à s'investir. Puis même si on sait que quelqu'un cherche un animal, il veut adopter un chien, par exemple, c'est très important d'impliquer cette personne-là. C'est pas tout le monde va avoir le même contact avec un animal. Même si moi, par exemple, j'ai un bon lien avec un chien, ça ne veut pas dire que ma sœur va avoir le même lien avec cet animal-là. Donc, si vous avez un membre de la famille qui veut un animal, c'est bien, parlez-y avec cette personne-là. Allez dans un refuge ensemble avec cette personne-là. Choisissez l'animal ensemble, parce que c'est très important d'impliquer la personne, tous les membres de la famille qui vont devoir dresser l'animal, qui vont devoir s'occuper de l'animal pour les années qui suivent. Donc, prendre un animal comme surprise, souvent... C'est pas la meilleure surprise.
C'est une fausse bonne idée.
Hein? Exactement.
C'est mieux d'impliquer la personne, de dire voilà, j'avais l'intention d'aller chercher un petit chat à l'SPCA pour toi. Voudrais-tu venir? Je te l'offre, même le choisir. Parce qu'on dit toujours que c'est l'animal qui nous choisit aussi.
Effectivement. Je suis complètement d'accord. Puis il faut impliquer tout le monde. Il faut se demander, poser les bonnes questions. Puis comme vous le dites, il faut impliquer tout le monde, tous les membres de la famille qui vont finir par habiter avec cet animal-là.
Merci beaucoup, Anita Kapuscinska de la SPCA. Au plaisir.
Merci.
Au revoir.
J'ai un petit chien, il s'appelle Reviens. J'ai un petit chat, il s'appelle Parpa. J'ai un koala, il s'appelle Reste avec moi. J'ai un caméléon, je l'appelle par ton nom. J'ai un bonobo, je l'appelle comme ton numéro. J'ai un crocodile, je l'appelle comme ton mobile. Depuis que tu es parti, je perds les pédales. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une souris, elle s'appelle, je t'en supplie. Et un épagneul, il s'appelle, me laisse pas seul. J'ai un lapin, il s'appelle, j'y comprends rien. Depuis que tu es parti, je perds les pédales, j'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une gazelle, elle s'appelle, faut pas que je t'appelle. Et un perroquet qui me le répète sans arrêt. J'ai un éléphanto, il s'appelle Faux, que j'arrête avec les animaux.
Tout à fait la chanson de circonstance, Thomas Jensen, Les animaux. Alors, sommes-nous de bons amis pour les animaux? Je vous lis, Carole Tremblay sur Twitter dit « En vérité, je pense que les animaux sont meilleurs envers l'humain que le contraire. Pour ma part, j'aime ceux que j'ai. » Et alors, bonne émission Sophie, j'y serai, j'adore les animaux. Il faut aussi se faire respecter car mal les aimer n'est pas mieux que les détester. L'éducation est importante. Serge Wallet dit « Je me pose la même question, j'en suis sûre. » Ensuite, il dit « Sommes-nous de bons amis pour les voisins ?» La première question à se poser. Et puis, il dit « Surtout pour le cheval. » Alors, notre prochaine invitée, c'est très intéressant ce qu'ils font. C'est un organisme qui, évidemment, les animaux sont là, aident les humains. Marie-Josée Gauthier, elle est cofondatrice de la Fondation Corazon du Québec. Bonjour, Madame Gauthier.
Bonjour, Sophie.
Vous allez bien ?
Oui, je vais très bien.
Alors, quand je disais que c'est intéressant, votre organisme, parlez-moi comment ça a commencé et d'où vient le nom Corazon pour votre entreprise?
Corazon, c'est le mot espagnol qui veut dire cœur.
Oui.
Pourquoi on a choisi ça? C'est plus les gens autour de nous qui nous ont qualifiés comme étant des amoureux de l'être humain et de l'animal. Mmh. Donc, ils ont dit le meilleur mot pour vous qualifier, c'est vraiment Corazon.
Mmh. Et donc, alors, donc, c'est parti d'où votre entreprise avec les animaux, votre philosophie aussi? Ça veut dire quoi quand on va chez vous, on va chercher quoi au juste?
Quand on vient chez nous, on vient chercher un animal qui va pallier à ta situation vraiment physique ou psychologique ou même encore de maladie. Nous, on s'est spécialisé dans les chiens d'assistance médicale pour la détection de l'hypo et l'hyperglycémie depuis 15 ans parce qu'il y avait un besoin. On m'a demandé de faire cette expertise-là. Et au départ, j'étais comme entraîneur de chiens d'assistance depuis 10 ans pour la mobilité réduite. Mmh. Et il y a une dame qui est arrivée, mon éleveur d'Espagnol Cocker anglais, est arrivé à ma table en me disant « J'ai une personne qui est diabétique autour de moi. Mmh. Est-ce que ça se fait des chiens pour la détection? » J'ai dit « Je ne le sais pas. » Elle m'a dit « Est-ce que toi, tu serais prête à prendre un de mes chiens au printemps? Je t'offre le premier choix de portée. » et de faire cette expertise-là. Donc, autour de moi, on me disait, non, Anne-Marie, fais pas ça, c'est le diabète, c'est pas quelque chose qui est connu, tu peux te péter le nez, et c'est ce qui m'a vraiment orientée. en me disant non, j'ai fait comme oui.
Ça, c'est bien ça. C'est bon oui. Ça. Ça. Moi, oui. J'aime bien ça, travailler un non oui. Quand on n'y a rien de pire. Alors, donc, vous avez pris un non, vous l'avez transformé en oui. Et non seulement ça, j'ai vu, c'est ça sur votre site, donc c'est les épagnols, oui. des chiens extrêmement brillants. Oui. Et quand vous me parlez de diabète, ça veut dire oui. que, bon, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des crises, est-ce que ces chiens accompagnent des diabétiques? Ils doivent comment ils font leur travail?
OK. La mission d'un chien d'assistance médicale, c'est pour détecter les hausses et les baisses de sucre. Il n'est pas là pour diagnostiquer une personne pour dire « toi, t'es diabétique ». C'est pas ça du tout.
Non.
Le chien est vraiment voué à une personne en particulier. Il a été pairé. J'ai été dans la portée pour être capable de choisir le bon tempérament qui va avec la bonne personne, la bonne activité du chien avec la personne. Ça, c'est la base.
Okay.
Ensuite, moi, j'entraîne le chien à détecter chacune des baisses ou des hausses de glycémie. Donc, pour qu'on se comprenne bien, une personne diabétique peut être normale entre 4 et 7.
Okay.
Il y a différentes façons.
Ça, c'est le taux de sucre, là.
C'est ça.
D'accord.
Son taux de sucre varie entre 4 et 7. Mais par contre, il y a d'autres diabétiques que son taux normal va être entre 5 et 7. Dès qu'il commence à monter à 7,1, 7,2, le chien va avertir tout de suite.
Quand
il va commencer à descendre à 3,9, 3,8, le chien va réagir tout de suite à dire « prends ta glycémie ».
Alors, comment il détecte ça, le chien? Comment vous l'entraînez? Comment il sait? C'est au niveau de la peau?
Au niveau de la peau, on a une odeur qui sort. Donc, le chien peut vraiment détecter cette odeur-là bien avant que nous, on puisse savoir qu'on est en hypo ou en hyperglycémie. Le chien, lui, va détecter au niveau de notre peau.
Ah.
Ensuite, le chien a appris aussi tout le body language d'une personne diabétique. Donc, notre changement d'humeur, nos tremblements, tout ce qui va avec la maladie, le chien l'a appris et a été conditionné à reconnaître ces signes-là.
Incroyable. Alors, je suis complètement sidérée. J'imagine que les gens qui écoutent cette entrevue aussi, c'est fou, hein, les animaux, c'est fou. Bon, là, je regardais, c'était des épagnols. Est-ce que ces chiens-là ont été choisis pour cette maladie parce qu'ils sont vraiment très développés au niveau sensoriel? Pourquoi les épagnols et pas d'autres races?
OK. Moi, c'est le concours des circonstances qui a fait que j'ai connu l'épagnol cocker anglais.
Mm-hmm.
J'avais entraîné des centaines de chiens avant, des labradors, des caniches royales. Mais l'épagnol cocker anglais, je ne le connaissais pas. Et c'est l'éleveur qui m'a vraiment... donner la chance de développer. Parce qu'en fait, l'instigatrice du programme, c'est bel et bien Charline Poirier et non moi, parce que c'est elle qui a vu dans sa race qu'il y avait un potentiel puis qui m'a fait la demande. Mais par contre, une fois que j'ai connu cet animal-là, ce chien-là, qui est adorable, qui est voué totalement à l'humain. On les appelle nos petits pots de colle parce que c'est vrai. Le chien est tout le temps attentif et fait action-réaction à chaque fois. Il n'y a pas de relâchement du tout dans son tempérament ou dans son activité avec l'humain. Lui, ce qu'il veut, c'est plaire à l'humain.
Donc, la dévotion.
J'allais chercher toutes les qualités de ce chien-là. Je l'ai développé. Puis je remercie le bon Dieu parce que je suis la première au monde à l'avoir réussi.
Incroyable. Et on est très fiers de vous avoir à l'émission. Dites-moi combien de temps ça... Parce que là, le temps nous fait la guerre. Combien de temps ça prend pour arriver à ce que ces chiens-là détectent justement que la personne est en train de tomber et que, bon, au niveau de sa peau, ça ne fonctionne plus. Là, le taux de sucre est beaucoup trop élevé.
Oui. Pour l'entraînement du chien, ça peut prendre entre 2 ans et 3 ans. Mais là, présentement, je participe activement avec les utilisateurs pour être capable de réduire le temps. Mais il faut comprendre que chez Corazon, au lieu de prendre un chien qui va en famille d'accueil, c'est l'entraîneur qui l'a sous sa tutelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Alors, donc, ces chiens-là sauvent des vies.
carrément. Et dernièrement, ma petite Angela a sauvé la vie de son utilisatrice, elle qui est une détectrice d'hypo et d'hyperglycémie, l'a sauvée d'une crise cardiaque. Mmh. Et je remercie le bon Dieu encore une fois, parce que ce chien-là s'est pas arrêté seulement qu'à la détection de l'hypo et d'hyperglycémie, mais a vu qu'il y avait quelque chose d'anormal chez Francine. Mmh. Il lui a sauvé la vie.
Donc, à ce moment-là, ils se mettent à japper. Qu'est-ce qu'ils font à partir
non,
du moment...
Non, elle a poussé. Elle a poussé, carrément, ouais. Son utilisatrice. C'est-à-dire, il faut que tu réagisses. Tu es en train de faire une crise cardiaque.
Ah, c'est incroyable. Écoutez, ce que vous me racontez, c'est absolument fascinant. J'ai vu, puis on va vous réinviter parce qu'on aura sans doute une autre thématique sur les animaux. Mais en terminant, j'ai vu qu'il y avait aussi dans vos plans la détection du cancer.
Oui, oui. C'est... Malheureusement, le Québec est pas prêt à ça, mais on a 4 chiens quand même qui sont en préparation pour faire la détection du cancer. Mmh. Ma sœur est décédée du cancer et c'est elle qui m'a fait la demande d'ouvrir ce programme-là pour sauver d'autres vies.
Parce qu'on a vu, notamment dans les soins palliatifs, les chats sont capables, ils vont se coucher, ils vont se mettre sur le ou la patiente.
Oui.
Et le fait d'aller se coucher sur la patiente... Ils viennent dire, en quelque sorte, un dernier au revoir et parler donc aux infirmières, de dire, voilà, la prochaine personne à partir, c'est un tel. Donc, donc les chiens aussi seraient en mesure de détecter et prendre un cancer à temps. On sait qu'on sauve des vies. Alors, donc, c'est votre prochain projet. Écoutez, je voudrais absolument parler, en terminant, de votre spectacle, parce qu'avec ce que vous faites, il faut que vous ayez du monde, là, c'est pas vrai, là?
Oui.
Alors, c'est vendredi le 19, c'est au Rialto. Qu'est-ce que c'est au juste?
Justement, c'est que là, on va vous présenter tous les futurs utilisateurs qui sont en levée de fonds. Ils vont être là avec leur chien. Il y en a qui vont rencontrer leur chien ce soir-là. Et c'est très important de venir les supporter pour dire « on est avec vous, ils ont besoin d'aide ». Ce sont tous des personnes diabétiques qui ont besoin récurrent d'un chien auprès d'eux pour leur sauver la vie. Donc, j'invite le public à venir nous voir. Vous allez avoir un super spectacle. Il y a Hands of Fire qui est là, il y a Marc-André Vallade, puis il y a Brian Tyler qui viennent chanter pour ces personnes diabétiques-là.
Merci, merci infiniment, Marie-Josée Gauthier. Et vous viendrez nous parler aussi de votre second volet, c'est-à-dire les chiens qui détectent le cancer. Ça nous intéresse beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonjour.
Écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Nous sommes toujours en direct, mesdames, messieurs. Une question très, très, très intéressante au niveau des animaux. C'est quoi le rapport qu'on a? Est-ce que pour l'instant, on a vu qu'ils nous en donnaient beaucoup, les animaux, à l'être humain? Notre question aujourd'hui, sommes-nous de bons amis pour les animaux? Alors, je vous lis, Carole Tremblay dit, il y a aussi l'inverse de la maltraitance, ceux qui utilisent leurs animaux comme des bébés. Il serait bon de faire le tour des encans d'animaux. Si les gens hésitent à dévoiler ceux qui battent les enfants, alors imaginez les animaux. Je me demande si l'endroit où on achète un animal ne pourrait pas être dans l'obligation de déclarer l'acheteur. Intéressant. Mettre une puce à l'animal de sorte qu'on puisse le retracer. Et puis, elle dit également, l'acheteur ne pourrait pas se débarrasser aussi facilement de son animal. Alors, On est-tu bien ici? Ça, c'est tweeteux. Mon réalisateur rigole. Alors, nous sommes aussi un animal prédateur, comme tous les animaux. On prend notre place. Et puis, il y a Sylvain Poliquin qui dit « On aimerait bien l'être quand on voit de plus en plus de logements dont les proprios refusent des animaux. C'est plutôt difficile. » Alors, on a parlé de cette question tout à l'heure. Eh bien, ça nous a, et ça continue toujours à nous parler, cette question des belugas. Et vraiment, c'est lui qui est allé porter le projet, qui s'est battu, mesdames, messieurs. Nous l'avons avec nous. C'est Robert Michaud. Il est président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour, monsieur Michaud.
Bien le bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Oui, quand je dis que vous êtes battu, vous êtes allé en Cour suprême. C'est un dossier que vous portez depuis longtemps. Parlez-moi de la population des bélugas. Comment ça se passe en ce moment? Combien ils sont? Et doit-on encore avoir peur?
Bon, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Juste une correction en entrée de jeu. Mon travail de scientifique nous a amené à effectivement émettre des avis scientifiques,
oui.
Mais nous n'avons pas nous-mêmes été en cours. On a servi d'experts, par
Vous avez servi d'experts, c'est ça.
Pour le regroupement des groupes environnementaux au Québec qui ont demandé des comptes et qui ont obtenu gain de cause de la part de la Cour supérieure du Québec qui avait arrêté des travaux.
Tout à fait.
Et c'était important d'arrêter ces travaux parce que pour plusieurs raisons. Parce que ces travaux-là étaient les travaux préliminaires d'un projet plus important qui pourrait encore voir le jour, la construction de port pétrolier à Cacouna. Mm-hmm. Alors, on espère qu'on a tourné la page, mais c'est pas encore certain.
Non, c'est
ça. Et dans le contexte où la population des bélugas du Saint-Laurent, ça fait longtemps qu'on nous parle des bélugas. J'ai commencé à étudier les bélugas il y a une trentaine d'années. Les bélugas étaient déjà sur la liste des espèces en péril. On les disait menacées. On a cru pendant les 30 dernières années que la population s'était stabilisée.
Mm-hmm.
Mais si on revient encore plus en arrière, on pense que la population s'était stabilisée autour de 1000, mais il y a à peine une centaine d'années, 150 ans, on pense qu'il était entre 7 et 10 000 bélugas dans le Saint-Laurent.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, c'est une chute importante.
Oui.
Cette chute-là est principalement associée à la chasse. Le béluga était chassé. Il y avait une chasse commerciale au béluga. Cette chasse a pris fin autour des années 55, alors qu'il n'y avait plus tout à fait assez de bélugas pour faire que cette entreprise-là soit rentable.
Mm-hmm.
Un nombre de bélugas dont on est incertain a survécu à cette chasse-là, possiblement un millier ou quelques centaines. On ne sait pas ce qui s'est passé entre 1950 et 1980, mais les bélugas qui ont survécu dans cette époque-là étaient dans la période la plus toxique du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent était pas une dompe à ciel ouvert, mais
presque, hein?
On n'avait pas compris encore que ce qu'on jetait dans le Saint-Laurent pouvait avoir des effets aussi durables sur les êtres vivants, sur les bélugas, entre autres. Mais évidemment, on pense que ça a eu des effets sur tous les animaux qui dépendent du Saint-Laurent, incluant les oiseaux. Mais les bélugas ont survécu à cette période-là. Certains des fameux contaminants dont vos auditeurs auront sûrement entendu parler, Mme Sankey, les BPC, les DDT, mais ces contaminants-là sont à la baisse chez les bélugas depuis une dizaine d'années maintenant.
Non.
Ça, c'est des bonnes nouvelles.
Oui, ça, c'est une bonne nouvelle.
On n'a pas juste des bonnes nouvelles. Les cancers, la même chose. On a parlé beaucoup des cancers chez les bélugas dans les années 90.
Mm-hmm.
Jusqu'à un quart des bélugas adultes qu'on retrouvait morts étaient morts de cancer.
Mm.
Et le taux de cancer est à la baisse chez les bélugas. Alors, ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais malheureusement, depuis quelques années, depuis 2008, on a assisté à une augmentation des mortalités chez les nouveaux-nés, les bélugas, qui est toujours aujourd'hui sans explication, en tout cas une explication totalement satisfaisante. Mais en tentant de comprendre pourquoi les bélugas, les jeunes, les nouveaux-nés, mouraient, on a fait un exercice avec nos collègues à Pêche Océan, Parc Canada, les universités qui participent au projet, on a remis toutes les données ensemble et on réalisait en faisant ça que finalement la population qu'on croyait stable, autour de 1000-1100 individus, est en fait en déclin depuis une dizaine d'années. Un déclin assez important. Et c'est ce qui a justifié tout récemment le changement du statut de la population des bélugas qu'on disait menacée d'extinction, mais maintenant elle est en voie d'extinction, voilà. En voie de disparition.
C'est ça, mais je relisais dans mes notes quand même, et c'est quand même en 1983 qu'on a dit... On a dit que c'était déjà une espèce en voie d'extinction. À plusieurs reprises, on a sonné l'alarme, puis on dirait que c'est maintenant qu'on réagit?
Bien, en fait, l'histoire est un peu plus complexe. La première fois que la population a été mise sur la liste des espèces en péril, c'est vrai qu'on l'avait noté en voie de disparition.
Oui, c'est ça.
Son statut a changé au début des années, à la fin des années 90, pour menacer, qui est un statut un peu moins critique. Par contre, c'est pas parce que la population s'était améliorée, c'est parce qu'on a revu l'ensemble des critères utilisés pour la classification des espèces en péril au Canada pour les accorder sur les standards internationaux. Mm-hmm. Alors, pour faire une histoire brève, depuis le début des années 80, on s'intéresse et on s'inquiète aux belugas, des belugas. Mm-hmm. Leur situation jusqu'à récemment ne s'était pas améliorée. Mm. Elle semblait stable. Il y a plusieurs choses qui ont été faites. Entre autres, on a créé un parc marin pour les protéger leur habitat. Mm-hmm. On a créé des règlements pour l'observation des baleines. Les transporteurs maritimes se sont entendus volontairement pour réduire des vitesses dans des secteurs un peu critiques pour les baleines. Alors, il y a des choses qui ont été faites. On a commencé à réduire, du moins pour certaines sources, de façon assez spectaculaire, les contaminants qu'on rejette dans le Saint-Laurent. Et ça a amené des améliorations. Oui. Excepté que notre population des belugas est toujours très vulnérable. Elle est petite, elle est isolée. Et récemment, elle a été soumise à de nouveaux stresseurs. Les bouleversements climatiques, les changements climatiques dont on parle tant, entraînent des changements considérables dans l'environnement. Mm-hmm. Dans le golfe Saint-Laurent, entre autres, la température s'y est accrue. Depuis quelques années.
De degrés, vous direz, monsieur Michaud, à peu près?
Régulièrement, la température moyenne atteint des 2 degrés de plus que ce qu'on avait enregistré dans les dernières années. Le couvert de glace a disparu pendant l'hiver. On a eu des effondrements assez spectaculaires chez différentes espèces de poissons dans le golfe Saint-Laurent. Ça, c'est entre autres en lien avec la surpêche des années 90, mais peut-être certaines espèces ne se rétablissent pas aussi rapidement qu'on le voudrait parce que les conditions ont changé. Alors, l'environnement du beluga est en changement dynamique et sa situation actuelle ne semble pas lui permettre de réagir de façon optimale. Mm-hmm. Mais il y a d'autres éléments, puis c'est un dossier qui est complexe et ça nous rappelle à quel point c'est important de suivre la situation, de maintenir nos programmes scientifiques pour étudier parce que on n'a pas de solution rapide. Et vous voyez, l'histoire du beluga nous raconte un autre message. Je vous disais tout à l'heure que certains contaminants ont diminué de façon assez spectaculaire, mais d'autres, par contre, ont augmenté dans les dernières années. Les composés à base de brome ont atteint dans les années 2000 des chiffres très inquiétants.
OK, donc on en retrouve.
On en retrouve encore. Il y a de nouveaux contaminants. Alors, les chimistes appellent ça les contaminants émergents. Mm-hmm. Alors, on continue à produire, à manufacturer toutes sortes de produits. Et pour réussir ces défis-là, parce que des fois, c'est des défis technologiques incroyables. Les humains font des choses hallucinantes.
Oui.
Mais pour réussir ça, et ça nous rend des bons services, mais pour réussir ça, on utilise des produits de synthèse, des produits qu'on conçoit en laboratoire. Et on n'est pas encore assez prudent pour légiférer rapidement ou donner le fardeau de la preuve aux entreprises, aux créateurs de ces nouveaux produits-là. Et souvent, ils se retrouvent dans l'environnement avant qu'on réalise que c'était dangereux. C'est ce qui est arrivé avec les composés à base de brome, les PBDE, qu'on a rejetés jusque dans les années 2000 avant de légiférer. Mais pendant les années 90, ça doublait dans les tissus des belugas à tous les 3 ans.
Aïe.
À tous les 3 ans, la concentration qu'on détectait dans les tissus des belugas doublait. C'est vraiment
incroyable. Oui. Alors, en terminant, Monsieur Michaud, vous allez me répondre, et puis je suis presque sûre de la réponse. L'impact du port pétrolier de Trans-Canada, ça aurait été la mort des belugas, c'est la fin des belugas. Et heureusement que la Cour supérieure a ordonné l'arrêt des travaux en septembre dernier, mais est-ce que ça voulait dire ça?
C'est une menace sérieuse dans un endroit très sensible qui visait la partie de la population la plus fragile, les femelles avec les jeunes.
Oui.
Et de toute la situation des bélugas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas renverser facilement, les changements climatiques. Par contre, pour donner une chance aux bélugas de se rétablir, mm-hmm. c'est définitivement de protéger son habitat. Mm-hmm. Et la construction d'un port pétrolier à Kakuna aurait été ou serait, parce que le projet, il ne faut pas l'oublier, n'est pas abandonné complètement non. de la part de TransCanada,
non.
mais serait une menace très sérieuse mm-hmm. à une partie de la population qui est la plus sensible. Et c'est cette partie de la population sur laquelle on compte pour rétablir la population. Si la reproduction se passe bien, si l'élevage des jeunes se fait bien, c'est par là que passera évidemment le rétablissement des bélugas du Saint-Laurent. Alors, il ne faut pas jeter la serviette du tout.
Non.
Il y a plein de choses qu'on peut faire, et en particulier, mieux protéger l'habitat des bélugas du Saint-Laurent et poursuivre la science, continuer à faire des travaux scientifiques pour comprendre et trouver les meilleures solutions.
Merci. Merci d'être là. Merci, Robert Michaud.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Alors, on va tout de suite avec notre spécialiste clinique et formatrice chez Zoothérapie Québec, Annie Bernatchez. Bonjour, Madame Bernatchez.
Oui, bonjour à vous.
Comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie.
Alors, vous faites un travail au niveau de la psychologie, vous formez des gens au niveau de la zoothérapie. Racontez-nous comment ça fonctionne, cette formation.
Oui, en fait, Zoothérapie Québec offre une formation pour les cliniciens désireux de pratiquer la zoothérapie. Cette formation-là, on l'offre depuis le début des années 90. Et donc, on reçoit des gens qui sont du secteur de l'éducation, des sciences sociales. Et ce sont des gens qui viennent chercher chez nous cette expertise-là pour savoir comment intégrer l'animal à des fins thérapeutiques. En fait, le faire aussi de façon sécuritaire et auprès d'une clientèle assez diversifiée, là, qu'on pourrait rencontrer dans le réseau de la santé et de l'éducation.
Alors, les gens, j'imagine qu'après, ils ont un diplôme, parce que c'est vrai que maintenant, c'est assez difficile de détecter si c'est un vrai zoothérapeute. Comment on sait ça?
Oui. En fait, on remet chez nous une attestation de formation.
Mm-hmm.
Et donc, c'est une attestation là, qui vient se combiner à une formation clinique initiale que les gens se seront procurés soit au niveau du cégep, dans différentes sections cliniques, là, secteur mm-hmm. clinique, ou au niveau mm-hmm. de l'université. Et vous avez raison de dire que c'est important quand on décide d'offrir des services de zoothérapie à une personne, de s'assurer que la personne qui va venir faire les interventions assistées du chien bien, possède cette connaissance des différentes pathologies cliniques, des clientèles, mais aussi qu'elle connaisse aussi les différentes techniques d'intervention et d'animation à utiliser au moyen du chien.
Mmh. Alors, comment ça se passe? La personne qui, d'abord, il faut avoir une prédisposition, aimer la psychologie, aimer les animaux, comment ça fonctionne? Qui vient vous voir? Quel genre de clientèle aussi?
Toujours dans notre programme de formation?
Oui.
Oui. Alors oui, il faut avoir une certaine prédisposition, comme vous le dites, mais il faut aussi avoir des habiletés techniques, hein, des compétences techniques, connaître les différentes utilisation, oui, des différentes approches en intervention auprès des différentes clientèles. Et les gens viennent passer chez nous 7 jours consécutifs, ont l'occasion d'assister à des blocs de formation théorique, mais aussi, puisque Zoothérapie Québec est un fournisseur de services de zoothérapie dans la grande région de Montréal, les gens ont aussi la chance d'accompagner nos interventions et d'assister à des programmes de zoothérapie que l'organisme a développé là-bas en partenariat avec les équipes, soit du secteur de l'éducation ou du milieu de la santé.
OK. Est-ce qu'on peut avoir un médecin qui nous dise, ben voilà, ça serait bien pour votre sœur, pour votre fille ou pour votre grand-mère d'avoir une séance de zoothérapie et là, il y a une prescription. Comment ça marche à ce niveau-là?
Un médecin, ça pourrait arriver. C'est souvent les équipes cliniques, si on parle ici des centres d'hébergement pour aînés, il va y avoir les chefs d'unité qui peuvent en faire la recommandation, mais aussi les ergothérapeutes, les physiothérapeutes qui peuvent reconnaître ou proposer que la personne participe à une séance de zoothérapie dans le but de l'encourager, par exemple, à faire des marches actives au moyen du chien, tout ça. En milieu scolaire, il peut y avoir les éducateurs spécialisés, les psychoéducateurs ou les psychologues scolaires qui peuvent faire la recommandation pour qu'un jeune, par exemple, puisse participer à des sessions d'intervention en zoothérapie.
Parlez-moi des bienfaits, parce qu'on le voit, moi j'ai été témoin aussi, mais je veux, vous, au niveau scientifique, que vous me disiez comment vous voyez la différence, qu'est-ce que l'animal fait comme différence.
Vous savez, quand ce qu'on observe comme bienfait en session de zoothérapie, d'une part, c'est que l'animal, qui est un médium vivant, hein, qui est un acteur dans la relation, qui va susciter l'échange chez la personne, qui va encourager aussi la personne à se mobiliser dans son plan de traitement, dans son plan d'intervention, et il va participer à la création du lien thérapeutique avec l'intervenant. Donc, c'est un bienfait qui est reconnu dans la littérature que l'animal, dans l'activité de zoothérapie, va faciliter cette création-là et cette mobilisation-là, cette participation active de la personne. Et on peut constater que bon, la personne sera davantage encouragée à s'adresser à l'animal, qui va devenir un interlocuteur social, va davantage être encouragée à communiquer, à réguler ses émotions aussi, quand on pense à des gens qui doivent diminuer l'agressivité. Les gens vont adapter un mode plus actif en activité, vont vouloir participer à des activités dynamiques. L'animal peut aussi stimuler l'humeur. En fait, la littérature scientifique nous dit que il y a plusieurs bénéfices associés à l'utilisation de l'animal à des fins d'intervention. Parfois, il y a des recherches là, pour lesquelles on doit quand même avoir une certaine prudence, mais ça nous démontre quand même que l'animal procure une certaine opportunité thérapeutique. Vous savez, il y a encore beaucoup à faire au niveau de la recherche en zoothérapie parce que c'est un domaine d'études très, très restreint, très, très, très spécialisé, mais ça nous laisse entrevoir que il y a plusieurs opportunités qui pourraient être utilisées dans le réseau actuellement pour justement procurer un sentiment de mieux-être et de bien-être à des personnes isolées, vulnérables, handicapées.
En terminant, qu'est-ce qu'ils vous disent justement, cette clientèle, une fois qu'ils ont vécu la zoothérapie, quels sont les commentaires?
Les gens se disent apaisés, disent avoir reçu un bel espace pour s'exprimer. Tout ça, vous savez, nous, Zoothérapie Québec, on travaille surtout avec des personnes plus lourdement handicapées qui, malheureusement, ne peuvent parfois pas s'exprimer verbalement. Mais on est à même, à travers les observations qu'on fait, de constater effectivement un apaisement, un mieux-être. Et c'est aussi beaucoup les équipes cliniques qui côtoient ces gens-là sur une base quotidienne qui nous renvoient aussi les effets positifs de nos interventions. Hein, parce qu'on travaille en collaboration avec ces équipes-là. On se joint à eux dans le plan d'intervention des gens.
Les sourires reviennent à ce moment-là.
Absolument. Et si les gens veulent en savoir un peu plus, notre site Internet, zoothérapiequebec.ca, donne beaucoup d'informations, des articles aussi complémentaires pour mieux comprendre le rôle thérapeutique de l'animal, plus spécialement le chien, ici à Zoothérapie Québec, auprès d'une clientèle variée.
Merci beaucoup, Mme Bernacci.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Alors, on essaye de rejoindre notre invitée Patricia Tulane. Vous savez qu'elle s'est beaucoup battue. D'ailleurs, elle se présentait à la mairie de Montréal et son principal dossier, c'était vraiment les animaux. Ça fait des années que Patricia adopte les animaux. Tout le monde, à un moment donné, dans le bottin de l'Union des artistes, Patricia nous appelait, je me souviens, au mois de décembre, parce qu'on a fait du doublage ensemble. Et elle avait toujours des chatons qui lui arrivaient chez elle. Et elle faisait carrément le bottin de l'Union pour dire, voilà, j'ai des petits chats, je veux pas qu'ils soient dans la rue. Alors, c'est vraiment quelqu'un. Est-ce qu'on est avancé au niveau des animaux? Je vous dirais, le premier invité qu'on a eu à la SPCA qui nous disait qu'on était la pire des provinces à ce niveau-là. C'est quelque chose, hein? On n'est pas avancé, là. On est encore en train de les appeler des meubles au lieu de les appeler des animaux. Et ça, mesdames, messieurs, c'est important. Si vous voulez signer, moi, je vais aller voir ça tout de suite après. J'ai demandé à ma recherchiste de me sortir le lien, peut-être le mettre sur notre site aussi, de Élise Desaunier et Martin Gilbert, qui font un manifeste justement pour faire en sorte qu'on n'appelle plus les animaux des meubles. Hein? C'est déjà un premier pas de fait là-dessus. Puis, il faudrait aussi voir à ne pas abandonner vos animaux pour les fêtes. Pensez-y, c'est un message que la SPC a lancé aujourd'hui. C'est très important. Allez-y avec quelqu'un, posez la question et surtout, faites pas de surprise parce que je pense que après 60 minutes, c'est plus eux qui nous donnent que nous, on leur donne à notre question. Sommes-nous les bons amis pour les animaux? On est des bons amis, mais faisons en sorte que nous, on les traite aussi bien qu'ils nous traitent. On a eu des preuves aujourd'hui absolument extraordinaires avec des chiens qui détectent des crises cardiaques et qui font vraiment l'impossible pour nous. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien, La Liberté à la réalisation de l'émission, Claudia, Benoît, aux médias sociaux et ma recherchiste, Christiane Campagnat. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des petits animaux qui sont avec vous et qui vous tiennent compagnie et qui ont une âme. Au revoir.